France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, les Grecs ont inventé une nouvelle forme de spectacle qui a fait fureur, la tragédie. Avec la tragédie, les Grecs ont trouvé le moyen d'obliger les dieux et les déesses à se montrer en public, à prendre leurs responsabilités. Et ils pouvaient obliger les héros et les héroïnes du passé, des époques lointaines et mythiques, les Héraclès, Clytemnestre, Œdipe, Thésée, Jocaste et Hélène, à apparaître en pleine lumière et à agir, parler, se disputer, pleurer en direct, devant tout le monde, hommes et femmes, devant témoins, comme si on y était. La tragédie a commencé dans la seconde moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ. C'était un spectacle flamboyant, tonitruant, devant des milliers de spectateurs, en plein air, en plein soleil. Il resplendissait chaque année, au début du printemps.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Voir de la tragédie.
Ariane Mouchkine.
C'est lutter contre la tragédie. Et je pense qu'un public qui va voir une tragédie sait très bien qu'en allant voir la tragédie, il se donne un millionième de chance de plus de l'éviter. C'est ça la catharsis, c'est ça la culture, c'est ça la civilisation, c'est ça la conscience. Et je crois que la beauté et le plaisir théâtral est fait de ça aussi. C'est-à-dire, on sait qu'on va au théâtre, à la tragédie, pour devenir plus grand, plus humain, donc pour connaître mieux le danger de la tragédie et pour se donner les outils, justement, même inadéquates, mais les outils pour l'éviter.
Imaginez une scène occupée par 12 ou 15 danseurs, tous des hommes, qui chantaient, dansaient au son d'une musique assourdissante, entêtante, musique dominée par des flûtes aiguës et des tambours. Tout ce vacarme n'empêchait pas que les paroles chantées étaient extrêmement raffinées, élaborées, avec des rythmes complexes et très savants, et en plus dans une langue, ou plutôt un dialecte, qui n'était pas celui que les spectateurs parlaient tous les jours. Face à ce chœur, composé uniquement d'amateurs entraînés pour l'occasion, il y avait des professionnels, des acteurs, tous masculins. D'abord un, puis deux, puis trois, qui se répartissaient tous les rôles du drame qu'ils jouaient, rôles d'homme ou de femme, de jeune ou de vieux, d'esclave ou d'être libre. Il fallait être sacrément virtuose pour changer plusieurs fois de personnage. Ces spectacles coûtaient très cher. La cité exigeait des citoyens les plus riches qu'ils prennent tout en charge, la formation du chœur qu'ils devaient accueillir chez eux pour les répétitions, les costumes, les musiciens. Personne ne pouvait se dérober. Ces spectacles grandioses étaient une fête continue, sonore et bariolée, avec des costumes très chargés, très colorés, de style oriental, avec des masques ornés, magnifiques, qui indiquaient si on avait affaire à une femme, à un homme, à un jeune ou à un vieux. Et tout ça bougeait, scintillait, criait, ou récitait de longues tirades raffinées, ou se battait à coups de dialogues très serrés, très rapides, où le public retrouvait avec plaisir son goût des disputes sur la place publique, à l'assemblée, dans les tribunaux, dans sa vie de citoyen. Et pourtant, cette grande fête chantée, bruyante, enthousiasmante et colorée, racontait des histoires tristes, à pleurer, affreuses, où des mères déchirent le corps de leurs fils, où des parents n'arrêtent pas de se maudire, de s'entretuer, où des dieux s'amusent à tromper des humains et à les conduire à la mort et au suicide. Et pourtant, les Grecs adoraient ça, ils en redemandaient. Visiblement, ces horreurs racontées sur scène leur donnaient une forme d'énergie printanière, de la joie de vivre. On savait que c'était de la fiction, un art de l'illusion. Dans la tragédie, tout était faux, artificiel. Le philosophe Gorgias, un penseur contemporain de Sophocle et d'Euripide, au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'âge d'or de la tragédie, disait qu'à la tragédie, il fallait surtout se laisser avoir, se laisser abuser par ce qu'on voyait. Il fallait y croire, dit Gorgias. Seuls les imbéciles ne se laissaient pas prendre et seuls les mauvais acteurs n'arrivaient pas à tromper le public.
La tragédie est une tromperie où celui qui trompe est plus juste que celui qui ne trompe pas. et celui qui est trompé, plus sage que celui qui n'est pas trompé.
Art très grand public, adoré et célébré, et art de l'illusion, du mensonge. La tragédie était libre vis-à-vis des définitions habituelles de la justice, puisqu'il est juste de bien mentir quand on est un poète ou un acteur, et de la sagesse, puisque dans le public, seuls les couillons refusent de se laisser avoir. La tragédie crée ainsi un espace de liberté pour les spectateurs, un espace où pendant quelques heures, on était libéré des contraintes qu'imposent la vertu, la sagesse, les normes habituelles de la vie familiale et publique. On entrait pendant un court moment dans des mondes imaginaires où ces normes ne valaient pas vraiment. Au théâtre, on était au-delà du bien et du mal. Puis on retournait dans le monde normal, après le spectacle. C'est sur une telle scène, dans un tel espace d'invention et de liberté que Sophocle présente les malheurs d'Antigone, la fille d'Œdipe, dont nous avons commencé à parler la semaine dernière. Il raconte une histoire abominable qui finit très mal avec la mort d'Antigone, avec l'effondrement de son adversaire, le roi Créon, qui va perdre son fils Aimon et sa femme Eurydice. Un désastre total, tout le monde y passe. Mais cette pièce, l'Antigone de Sophocle, n'était pas censée plonger les spectateurs dans une tristesse insurmontable, dans un deuil sans limite. On pouvait pleurer, être ému, il y a de quoi. Mais la tragédie devait aussi transmettre quelque chose comme une énergie vitale, une force, un plaisir. Des anciens, dont le philosophe Aristote, appelaient cette transformation du chagrin des spectateurs en plaisir une purification, une catharsis. La tragédie mettait les spectateurs dans un état émotif très violent. En fait, ils entraient en transe, faits de terreur et de pleurs. Mais comme il s'agit d'art, d'artifice, la tragédie, si elle était bien construite, savait transformer, purifier ces émotions négatives et violentes en plaisir partagé. Essayons de voir comment ça se passe avec l'Antigone de Sophocle. Pour rappel, Antigone est la fille de Jocaste et d'Œdipe. Œdipe a été le roi de la ville de Thèbes. Antigone a une sœur, Ismène, et deux frères, Éthéocle et Polynice. Le problème est que l'épouse d'Œdipe, Jocaste, était aussi la mère d'Œdipe. Œdipe l'a épousée sans savoir que c'était sa mère. Œdipe était à la fois le père et le frère de ses enfants. C'est donc mal parti pour cette famille. Œdipe découvre tardivement la monstruosité de son mariage. Il se crève les yeux. Plus tard, il maudit ses deux fils, Éthéocle et Polynice. Il les condamne à s'entretuer dans une guerre. Cette guerre a lieu. Un des deux fils, Polynice, qui a été contraint à l'exil par son frère Éthéocle, lève une immense armée et assiège la ville de Thèbes, qu'il veut récupérer. Il veut prendre la place de son frère Éthéocle, qui est devenu roi de Thèbes. L'armée de Polynice est battue. Et les deux fils d'Œdipe, Éthéocle et Polynice, s'entretuent à une porte de la ville. Thèbes est sauvée. Mais la malédiction lancée par Œdipe contre ses fils s'est réalisée. Ils sont morts tous les deux. Cette guerre désastreuse pour la famille d'Œdipe a eu lieu la veille du jour que présente la pièce de Sophocle, Antigone. Le pouvoir sur la ville de Thèbes est confié à un membre de la famille royale, Créon. Ce Créon était le frère de Jocaste. Il était donc l'oncle maternel d'Antigone. Il était même très lié à Antigone, car Antigone, la fille d'Œdipe, était la fiancée du fils de Créon, le jeune Aimon. Et ce lien de famille étroit ne va pas empêcher Créon et Antigone de devenir des adversaires farouches pendant toute la pièce. À peine nommé roi, Créon prend une décision brutale. Il décide que la ville de Thèbes honorera son sauveur, Éthéocle, dont le cadavre sera inhumé lors d'une cérémonie officielle. Tandis que le cadavre de Polynice, le traître, l'ennemi de Thèbes, sera abandonné dans la plaine, là où il est mort. Il sera laissé aux chiens et aux oiseaux, sans sépulture. Quiconque désobéirait et essaierait d'enterrer Polynice serait livré à la mort, par lapidation. Cette décision radicale correspondait à une coutume en Grèce. C'est comme ça qu'on pouvait traiter des ennemis, les laisser pourrir au soleil. Antigone, la sœur de Polynice, se révolte. Elle décide de braver l'interdiction. Elle essaye de convaincre sa sœur Ismène de l'aider à enterrer leur frère. Ismène, qui tient à la vie, qui a peur de l'autorité, refuse. Antigone agit seule. En cachette, elle répand de la terre sur le corps de son frère. Mais elle finit par se faire prendre par un garde qui l'amène devant Créon. Antigone ne nie pas. Elle déclare au roi que sa loi à lui, qui interdit d'enterrer son frère, ne vaut rien face aux lois éternelles de Zeus et de justice qui demandent qu'on honore les morts. Elle ajoute que rien ne pourra la séparer de son frère. La mort ne lui fait pas peur. En mourant, elle y gagne.
Mais si je dois mourir avant l'heure, je dis encore que j'y gagne. Comment ne gagne-t-on pas à mourir si l'on vit comme je le fais, accablé de misère ?
Furieux, Créon lui dit que puisque c'est comme ça, puisqu'elle tient autant à sa famille, elle ira rejoindre son frère dans la mort.
Vas-y donc en bas. S'il te faut des liens, noue-les là-bas. De mon vivant, une femme ne fera pas la loi.
On en est là, mais ça va encore s'aggraver.
Quand les Grecs, les Athéniens allaient voir une tragédie...
Pierre Vidal-Naquet, historien.
En un sens, ils s'évadaient de la politique et ils voyaient les choses de plus haut et de plus loin. La tragédie n'est pas le miroir de la société athénienne, c'est un miroir brisé. Les Grecs ont inventé la politique, Athènes a largement contribué à inventer la démocratie, et entre la tragédie et la démocratie, il y a un lien absolument fondamental que Castoriadis a d'ailleurs contribué fortement à éclairer.
Il n'y a de la tragédie qu'à Athènes, et il y a de la tragédie à Athènes parce que Athènes est une cité démocratique.
Cornelius Castoriadis, philosophe.
Et la tragédie est une institution qui fonctionne, jouant un rôle tout à fait fondamental dans la démocratie, parce que la tragédie rappelle constamment l'hubris.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
Les mains dans la terre, je creuse. Un tombeau pour mon frère, je creuse. Fille d'Édipée, je casse, je m'appelle Antigone. J'ai guidé en exil mon père jusqu'à Colonne. Quand il est mort, je suis rentrée à la cité où mes frères s'entretuaient comme des chiens pour régner.
Les mains dans la terre, elles creusent. Elles se souviennent d'hier de leur voix résonneuse.
Si tu enterres ton frère, dit le roi, tu mourras. Moi vivant, ce n'est pas une femme qui commandera. Prends garde, Antigone, sinon tu te brûleras. Les femmes, petites sœurs, ne sont pas faites pour ça. Et pour quelle raison ne le ferais-je pas, alors que tout au fond je sens que je le dois. Comme un poignard pour tuer la colère, faire renaître l'espoir. Les passants m'apportaient des offrandes et du pain pour que mon cri absorbe leur douleur, leur chagrin.
Les mains dans la mer, elles creusent. Un tombeau pour son frère.
Ne le ferai-je.
je le dois.
Pierre Judet de la Combe parle d'Antigone.
Antigone, l'irréductible.
Créon pense que tout le monde est contre lui, non seulement Antigone, qui vient d'avouer avec fierté, mais sa sœur Ismène. Puisqu'elle appartient à la même famille de dingues, elle doit être coupable. Ce qui est faux, puisque Ismène avait refusé de suivre sa sœur. Créon envoie des gardes aller chercher Ismène dans le palais. Ismène apparaît sur la scène. Elle est sous bonne escorte. Le chef du chœur décrit son entrée. L'acteur qui tenait le rôle d'Ismène ne devait pas faire dans la discrétion et dans la sobriété quand il jouait sa peine et son désespoir.
Je vois Ismène, ici, devant la porte. Elle laisse couler vers la terre les larmes d'une sœur qui aime. Un nuage couvre ses sourcils. Il défigure son visage en sang et inonde ses belles joues.
Ismène, effrayée, révoltée par le sort qui attend sa sœur Antigone, déclare qu'elle aussi est coupable, qu'elle aussi a tenté d'enterrer Polynice. Le malheur, selon Ismène, doit réunir les deux sœurs. Antigone doit dire à Créon qu'elle a agi avec elle, même si c'est faux. Mais Antigone rejette violemment sa demande.
Ismène,
j'ai fait la chose si elle le dit avec moi. J'ai ma part de la faute et je l'assume.
Antigone,
cela non, justice ne le permettra pas. Toi, tu n'étais pas prête, et moi, je ne t'ai pas associée.
Ismène,
dans le malheur où tu es, je n'ai pas honte de me faire la compagne de l'épreuve que tu traverses.
Ismène insiste, supplie, rappelle qu'elle aussi est liée à Polynice, et que dans ce monde, elle n'a plus que sa sœur. Antigone la rejette encore.
Ismène,
non, ma sœur, ne m'humilie pas, ne me refuse pas de mourir avec toi et de rendre aux morts son intégrité.
Antigone,
je ne veux pas que tu meures avec moi et ne t'approprie pas ce à quoi tu n'as pas touché. Il suffit que moi je meure.
Ismène,
quelle vie pourrais-je encore aimer si je suis abandonnée par toi?
Antigone,
demande-le à Créon, tu ne t'occupes que de lui.
Ismène,
pourquoi me torturer de la sorte pour rien?
Antigone,
cela me fait mal puisque c'est de toi que je ris.
Ismène,
dis-moi donc ce que je pourrais faire maintenant pour t'aider.
Antigone,
sauve ta vie. Si tu t'en tires, je ne t'en voudrais pas.
Ismène,
oh malheur, suis-je donc exclue même de ta mort?
Antigone,
tu as choisi la vie, moi j'ai choisi la mort.
Antigone est inflexible dans son refus que sa sœur Ismène se sacrifie avec elle. Est-ce seulement parce qu'elle est têtue, trop fière? Il y a sans doute autre chose. Elle aime sa sœur Ismène, elle est attendrie par elle. Mais Antigone se replie, se sépare de tout le monde, même des très proches. Elle a décidé de quitter les vivants.
Moi, j'ai choisi la mort.
Si Ismène veut mourir avec elle, c'est qu'Ismène n'a plus qu'un seul être aimé au monde, Antigone, qui est encore vivante, même si ce n'est pas pour longtemps. Ismène n'imagine pas de vie sans sa sœur. Antigone est déjà loin de ça. Elle n'imagine aucune vie possible. On la menace de mort. Eh bien, cette mort, elle va la vouloir elle-même, sans contrainte. C'est sa gloire, désobéir à Créon, n'obéir qu'à elle-même. Créon, évidemment, n'y comprend rien.
Ces deux filles, je dis qu'elles sont folles, toutes les deux.
Ismène, par amour de la vie, par amour de sa sœur, par tendresse, va essayer de sauver Antigone de la mort, puisque Antigone lui refuse de mourir avec elle. Si c'est comme ça, s'il n'y a pas de mort commune possible, il faut à tout prix que les deux sœurs survivent ensemble. Ismène se tourne alors vers Créon pour le convaincre d'épargner Antigone. L'argument qu'Ismène trouve pour essayer de sauver sa sœur pour faire céder Créon, c'est qu'Antigone est la fiancée de son fils Aimon. Créon, dit-elle, ne peut quand même pas tuer celle qui aime son fils et qui est aimée de lui, les deux amoureux ayant été officiellement promis l'un à l'autre, selon les règles. La réponse du roi est brutale, bien dans son genre.
Tu vas tuer le mariage de ton propre enfant.
D'autres femmes aussi ont des champs à labourer.
Il n'y aurait pas l'accord qu'il y a entre lui et elle.
J'ai horreur, moi, d'une femme qui cause le malheur de mon fils.
Et mon doux ami, comme tu es humilié par ton père.
Tu m'ennuies fort, toi et ton histoire de lit. Hadès, le dieu des morts, mettra fin pour moi à ce mariage.
Tout est perdu. Les deux sœurs sont emmenées brutalement dans le palais, en attente de leur châtiment. Créon est inflexible. Mais il ne faut pas croire que c'est un être simpliste. Il est borné, brutal, mais il raisonne. Il voit le monde, d'abord à travers son regard d'homme politique, et il croit bien faire. Il croit qu'en étant un bon politique, il va assurer le bonheur de sa propre famille, et en premier lieu de son fils, qu'il aime tendrement. S'il met en avant la cité, l'État, la politique, c'est qu'il tient à sa famille, à son fils, qu'il voudrait obéissant et heureux. Selon lui, aucun bonheur n'est possible pour personne, tant que survit dans la ville de Thèbes, sa ville, la mauvaise engeance d'Oedipe, la nuisance que sont ses enfants. Cette famille a tout corrompu, la preuve, la folie d'Antigone et de sa sœur Ismène. Cette famille tordue de Laios, d'Oedipe et de ses enfants n'arrête pas de mettre en danger la ville de Thèbes, en enchaînant tragédie sur tragédie. Il faut donc la supprimer, l'éradiquer. Comme ça, de bonnes et belles familles, comme il faut, pourront prospérer grâce à son autorité politique intraitable. Son fils pourra être heureux. Il n'aura qu'à chercher ailleurs une autre femme, un autre champ à labourer, comme il le dit délicatement. Mais en niant, en voulant détruire la famille réelle telle qu'elle existe, avec son histoire, avec ses liens, ses personnes telles qu'elles sont, en voulant tirer un trait sur les tragédies passées, Créon va, sans le savoir, créer sa propre tragédie et celle de son fils et de sa femme. Tout sera détruit par sa faute. Il ne pouvait pas imaginer un tel désastre. Pourtant, son fils, à la fois amoureux d'Antigone et fils qui aime son père, va tout faire pour le prévenir et pour le protéger. Il n'y arrivera pas. Créon va subir une attaque qu'il n'attendait pas. Elle viendra de ce fils Aimon, le fiancé d'Antigone. Aimon est d'abord très respectueux avec son père. Il dit à Créon, qui lui annonce que sa fiancée Antigone va être mise à mort, qu'il est plein d'amour pour lui, plein d'admiration, et qu'il ne va pas contester sa décision. Créon, le père, le roi, est ravi. Il en profite pour rappeler les devoirs d'un fils vis-à-vis d'un père.
Voilà en effet, mon fils, ce dont ton cœur doit être pénétré. Suivre en tout point sans broncher la décision de ton père. Telle est en effet la raison pour laquelle les hommes, quand ils font des enfants, demandent à avoir une progéniture docile dans la maison. D'une part pour qu'ils rendent à l'ennemi le mal qu'il a fait, d'autre part pour honorer l'ami de leur père autant que lui. Mais celui qui met au monde des enfants impropres à le servir, que dire de lui si ce n'est qu'il n'a rien fait d'autre que de provoquer des peines pour lui-même et chez ses ennemis de grands rires.
Puis Créon s'enfonce dans la grossièreté, dans la bassesse, en faisant un cours d'éducation sexuelle à son fils.
« Prends garde, mon fils, de ne jamais perdre la tête à cause du plaisir que tu prends avec une femme. Sache bien que l'étreinte est froide lorsqu'une méchante femme partage ton lit dans ta maison. Quelle blessure plus grave que d'avoir le mal chez soi ?»
Comme souvent, le moralisme, la rigueur deviennent violence, fanatisme.
« Crache-la comme une ennemie. » Et laisse cette garce se trouver un mari dans les enfers.
On n'en croit pas ses oreilles, tellement c'est grossier, caricatural. On se croirait en pleine comédie. Ce Créon paternaliste et ridicule ressemble vraiment au vieux barbon des comédies de Molière, en plus dur. On ne dirait pas un personnage de tragédie, il n'en a pas la noblesse. Mais c'est bien là la force de la tragédie. Elle peut mettre en scène des personnages pleins d'idées grossières, affligeantes de banalité et de bassesse. Des idées comiques qui font rire tellement elles sont caricaturales. Puis, de manière tout à fait inattendue et spectaculaire, elle peut faire surgir de là le malheur tragique, le désastre qui s'abat sur le pauvre type ridicule et banal, comme s'abat la foudre ou un oiseau de proie tombant du ciel. Le malheur sera d'autant plus impressionnant, d'autant plus tragique et saisissant, qu'il frappera quelqu'un qui barbotait benoîtement dans des croyances vulgaires censées être normales et justes. C'est bien ce qui va arriver à Créon.
What happened here? The butterfly has lost its wings. The air's too thick to breathe. And there's something in the drinking water. The sun comes up. The sun comes up and you're alone. Your sense of purpose come undone. The traffic tails back to the maze on 101. And the news from the sky is looking better for today. In every single way, but not for you. World citizen. World citizen. And it's not safe. All the yellow birds are sleeping. 'Cause the air's not fit for breathing, it's not safe. Why can't we be without beginning, without end? Why can't we be? World citizen. Citizen. And if I stop and talk with you a while, I'm overwhelmed by the scale of everything you feel. The lonely inner state, emergency. Want to feel until my heart can take no more, and there's nothing in this world I wouldn't give. I want to break the indifference of the days. I want a conscience that will keep me wide awake. Disappointed. I won't be disappointed. I won't be. She doesn't love. We've gone from comedy to commerce. And she doesn't feel the ground she walks upon. I turn away, and I'm not sleeping well at night. And while I know this isn't right, what can you do?
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Pierre Judet de la Combe parle d'Antigone.
Antigone, seule contre tous.
Le nœud tragique, quand il se resserre jusqu'au bout.
Hans Wismann, philosophe.
J'ai toujours en tête l'image d'une supernova, une étoile qui meurt en se rétrécissant et qui, au moment de mourir, explose de façon absolument aveuglante. Or, le moment tragique, c'est le moment de l'anéantissement, mais l'anéantissement tragique, c'est justement la naissance de quelque chose. La naissance de quelque chose qui dépasse. C'est pour ça qu'on joue les tragédies, pas pour ensuite pleurer à la maison et se dire tout va mal. Non, on rentre reboosté. Parce qu'on traverse quelque chose qui est l'extrême même de tout ce qu'on redoute dans notre vie ordinaire.
Pour représenter les destins tragiques, La tragédie n'a pas seulement besoin d'histoires monstrueuses, pleines de malédictions cruelles, d'incestes, de parricides. Tout cela sur fond de persécutions divines, comme en est pleine l'histoire d'Oedipe et de sa maudite famille. La tragédie peut aussi naître de la banalité humaine la plus banale, la plus normale. Quand un être humain croit être une fois pour toutes raisonnable, avisé, parce qu'il est convaincu de posséder la vérité, parce qu'il croit être détenteur d'une sagesse absolue, vraie, inébranlable, applicable en toute occasion, il peut en fait créer son propre malheur, sa propre tragédie, tout simplement parce qu'il confond ses idées, sa conception de ce qui est juste avec la réalité, avec ce qui va se passer concrètement. Il ne prend pas de distance et la réalité lui tombe dessus. Créon veut éliminer ceux qu'il croit être les ennemis de la cité, mais il ne voit pas qu'il est ennemi de lui-même. Antigone sait qu'elle appartient à une famille maudite, vouée au malheur à cause des dieux. Elle ne s'attend qu'au désastre et elle va jusqu'au bout de sa tragédie. Créon, lui, pense être à l'abri de tout cela parce qu'il pense être sage, lucide, parce qu'il est décidé à agir énergiquement en fonction de ce qu'il croit être normal. Cela le perd. En voulant évacuer toute tragédie, il crée la sienne. Il y a de la folie dans cette manière aveugle de vouloir imposer à tout prix ce qui lui semble être raisonnable, rationnel. Hémon, son fils, essaye de l'avertir en parlant non pas de son amour pour Antigone, mais en parlant politique. Il dit à Créon avec prudence que peut-être il n'est pas vraiment le maître de sa cité. Créon pense qu'il sait qui sont ses amis à Thèbes et qui sont ses ennemis. Mais il se fie trop à ce qu'on lui dit, il est peut-être naïf. Lui, Hémon, le fils, il peut entendre ce que les gens disent entre eux dans la ville.
Toi, tu n'es pas fait pour observer tout ce qu'on dit, ou que l'on fait, ou que l'on trouve à critiquer. Car ton œil est terrible pour l'homme du peuple, quand il tient un discours qu'il ne te plaît pas d'entendre.
Or, dit Hémon, ce que le peuple murmure, sans oser le dire au roi, c'est que la ville est pour Antigone, qu'elle admire son acte.
Moi, il m'est permis d'entendre dans l'ombre ce que l'on dit. La douleur de la ville au sujet de cet enfant. On dit que de toutes les femmes, c'est elle qui mérite le moins une mort ignominieuse, étant donné l'éclat de ses actions. Elle est la femme qui n'a laissé ni les chiens dévoreurs de chair crue, ni aucun oiseau de proie détruire ce corps sans sépulture de son frère de sang, tombé dans une tuerie. Ne mérite-t-elle pas, cette femme, de recevoir une récompense en or ? Voilà la rumeur obscure qui s'approche en silence.
C'en est trop pour Créon. Il ne veut pas entendre l'avertissement, il interprète. Si son fils lui parle comme ça, ce n'est pas pour l'aider, c'est pour sauver sa chérie. Tout ce que dit ce fils n'a donc aucune valeur. Le père et le fils se fâchent. Hémon, dit Créon, a perdu toute virilité. Il s'est mis aux ordres d'une femme, Antigone. Il ne fait que roucouler. Le verdict de Créon est net et définitif.
Créon.
Jamais tu ne pourras l'épouser vivante, cette femme.
Hémon.
Elle va donc mourir, et en mourant, elle fera mourir quelqu'un d'autre.
Créon pense que Hémon le menace, qu'il est prêt à se révolter et à l'assassiner, lui le roi. Mais Hémon parle de la mort qu'il se donnera à lui-même si Antigone est tuée. C'est comme ça qu'ils s'épouseront dans la mort, et Créon ne peut pas les séparer. Et c'est ce qui se passera. Le cœur des vieillards est impressionné par la passion amoureuse de Hémon, qu'il présente comme un délire ayant emporté son esprit. Le cœur chante sur Eros, le dieu de l'amour, un chant à la fois beau et terrible. Mais comme il lui arrive souvent, le cœur ne comprend pas ce qui est en train de se nouer. Il ne comprend pas qu'il s'agit aussi de la tragédie de Créon qui va perdre toute sa famille. Il ne comprend pas que c'est Créon qui délire et pas cet Hémon amoureux qui aurait été séduit par l'érotisme des œillades d'Antigone, selon l'idée de l'amour que développe ce vieux cœur masculin.
Eros, invaincu au combat, Eros qui tombe sur les troupeaux, tu bivouaques la nuit sur les tendres joues des jeunes femmes. Tu vas au-delà des mers et dans les étables des champs, et il n'est pas d'immortel qui t'échappe. Personne non plus chez les hommes d'un jour qui te possède, délire. Tu détournes encore l'esprit des justes vers l'injustice pour leur perte. Tu as fait encore le désordre de cette dispute entre hommes de même sang. Claire la victoire du désir dans l'œil de la jeune femme faite pour le lit. Eros siège à côté de grandes lois dans leur puissance, car Aphrodite, la déesse, on ne la combat pas. Elle joue.
Créon croit être le maître absolu. Il précipite les choses. Il décide d'épargner Ismène par souci de justice, puisqu'en fait, elle n'a rien fait. quant à Antigone. Il décide de ne pas la faire tuer violemment, mais de la livrer aux dieux, à la terre qu'elle aime tant. Il va la laisser dans une grotte bien fermée, avec un peu de nourriture. Comme ça, ce sont les dieux qui vont décider de ce que va devenir la jeune fille. Peut-être qu'ils lui permettront de ne pas mourir. Lui et la ville avec lui s'en tireront sans aucune souillure. Antigone va être conduite vers le lieu de son supplice. Elle apparaît en pleurs et elle chante.
Voyez-moi, vous qui habitez la terre de mes ancêtres, je vais mon dernier chemin. Je regarde une dernière fois la lumière du soleil. Il n'y en aura plus jamais d'autre. Hadès, le lit commun à tous, m'amène vivante aux rives de l'Achéron.
Antigone chante, pleure, mais c'est aussi une femme de tête. Elle ne renonce pas à argumenter. Elle s'en va pour toujours. Mais elle tient absolument à montrer que son acte de rébellion avait un sens, qu'il était logique. Sa démonstration est surprenante et a même choqué de nombreux interprètes, tant elle paraît froide, calculatrice. Certes, dit-elle, elle y gagne en allant à la mort, puisqu'elle va rejoindre pour toujours tous ceux qu'elle aime, ses parents, ses deux frères. Mais il y a plus. Elle ajoute qu'elle ne serait jamais allée contre la loi de Créon s'il ne s'était pas agi de son frère mort. Il suffit d'un tout petit peu de bon sens pour le comprendre.
Si j'avais été mère avec des enfants, et que c'eût été mon mari qui était mort et dont le corps pourrissait, je n'aurais pas alors, contre la volonté des gens de la ville, assumé cette épreuve. Quelle est la loi qui me le fait dire ? J'aurais eu un autre mari à la place du mort, et un enfant d'un autre homme si j'avais perdu celui-ci. Mais comme ma mère et mon père sont enfouis dans l'Hadès, je n'ai pas de frère qui pourrait venir au monde. Voilà, Polynice, la loi qui m'a fait te préférer entre tous. Mais Créon a pensé que je commettais une faute et que mon audace était folle, mon frère chéri. Je m'en vais vivante dans la caverne des morts.
Enterrer Polynice le mort, cela veut dire se mettre soi-même en danger de mort, puisque Créon, au nom de la ville, l'a ordonné ainsi. Antigone dit très clairement qu'elle n'aurait pas risqué sa vie si le mort avait été un mari ou un enfant. Un frère mort, oui, méritait cela, parce que Polynice était unique. Aucun autre Polynice ne pourra jamais naître, puisque ses deux parents, Œdipe et Jocaste, sont morts. Polynice était irremplaçable, alors qu'on peut toujours remplacer un mari ou un enfant par un autre. On pourrait croire que c'est un peu froid, un peu intello comme raisonnement, que ça manque de sentiment, de profondeur tragique. Le grand poète Goethe était choqué par ce raisonnement d'Antigone et il espérait qu'un savant habile pourrait démontrer que ce passage était un faux, qu'il n'avait pas été écrit par Sophocle. J'ai un jour entendu un savant helléniste tenter de démontrer que ce passage était un faux, mais son principal argument était que Goethe avait été choqué. Le raisonnement d'Antigone est en fait très profond et touche le sens même de son acte. Antigone ne se contente pas de constater froidement que son frère Polynice est irremplaçable puisque ses parents sont morts et ne peuvent plus engendrer. Elle dit beaucoup plus. Elle dit qu'elle, Antigone, était prête à mourir seulement pour quelqu'un qui est unique, comme ce frère-là. Cela veut dire qu'Antigone considère que sa vie à elle, qu'elle peut offrir à Polynice, est elle aussi unique, irremplaçable, comme celle de son frère. Les deux vies se valent et sont solidaires. Ce n'est pas seulement la fraternité, l'amour fraternel, amour en soi normal qui les relie, mais le fait qu'ils sont uniques l'un pour l'autre, indissociablement, du fait de leur histoire, du fait de l'histoire affreuse de leurs parents. Enterrer Polynice et risquer de mourir en l'enterrant, c'est affirmer que vaut par-dessus tout ce caractère singulier, irremplaçable d'une existence aimée, à laquelle on est lié par toutes les catastrophes, par tous les deuils qu'on a vécus. Cela ne peut se montrer, ne peut se célébrer qu'une fois qu'on est mort, quand le rite funèbre peut rendre un hommage définitif qui ne sera jamais remis en question. Il n'y a aucune froideur là-dedans. Antigone, juste avant de mourir, rappelle qu'au-delà de toutes les causes qu'on peut soutenir, il y a cette valeur non négociable, irréductible de son existence et de celle de son frère. Elle sait qu'elle est épouvantablement seule, qu'elle ne peut appeler personne à son aide, pas même les dieux, puisqu'ils l'ont laissée se faire condamner. Elle le proclame.
Pourquoi me faudrait-il, malheureuse, me tourner encore vers les dieux ? Quel allié pourrais-je appeler, puisqu'aussi bien l'impiété est le verdict que me vaut ma piété ? Eh bien donc, si c'est cela qui est beau chez les dieux, je reconnaîtrai ma faute à ce que je subis.
Antigone est seule, détachée de tout, sans aucun appui dans le monde. Ce qui lui reste, c'est presque rien. C'est la capacité de dire sa solitude avec force en public. C'est le pouvoir de revendiquer, d'être incompris, injurié, d'être ignoré de tous, même des dieux. Au moins ça, sa liberté. Elle est seule contre tous, absolument unique. Par là, elle réalise le sens de son nom. Celui qui lui a été donné à sa naissance par sa mère Jocaste, nous dit-on. Elle est Antigone, Antigone, celle qui est née contre, celle qui est née pour s'opposer, avec anti, contre, comme dans antipathie, et gonée, naissance, de la même racine que gonade, génétique, gène, généalogie. Antigone s'oppose à tout, aux lois humaines, à Créon, à sa sœur, à sa ville, aux dieux qui l'abandonnent, et surtout, elle s'oppose à elle-même, à sa propre vie, en allant rejoindre son frère.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Looking like some clear skies, you finally opened up my eyes. Living in a lost time, the dawning of a brand new man. So much blood on our hands. King and queen of being lonely. Children of the empire see that we're all lost. There comes a cause walking in the labyrinth without love. How much can you take, and when are you gonna be okay? Gain control of what we made instead of being afraid. Children of the empire, say we're long gone in that eternity.
Pierre Judet de Lacombe parle d'Antigone.
La force de vivre malgré tout.
Les dieux, qui ont été plutôt discrets jusqu'ici, vont s'en mêler. Ils vont prendre les choses en main. Ils vont parler par la voix de Tirésias, le vieux devin aveugle, et par la voix des oiseaux, que partout dans la ville ils font entendre, et que Tirésias sait déchiffrer. Tirésias, guidé par un jeune enfant, vient trouver Créon. Sa visite est inattendue, c'est un coup de théâtre. Tirésias accable Créon de reproches. À cause de lui, Créon, les oiseaux qui sont normalement les porte-paroles des dieux ne respectent aucun ordre. Ils crient, se déchirent, se dévorent. Tirésias raconte.
J'entends le cri d'oiseaux inconnus. Leur vacarme exprimait un délire horrible et désordonné. Et je compris qu'ils se déchiraient à mort les uns les autres dans leurs serres. Le bruit des ailes en fournissait le signe. Pris de peur, j'essayais aussitôt un sacrifice sanglant sur un autel brûlant de feu. Héphaïstos ne flambait pas sur les victimes. Un jus pourri coulait en suintant des cuisses. Il fumait et giclait. Les vessies éclataient dans l'air. Les cuisses fondaient, dénudées de la graisse qui les enveloppe. Tels étaient les présages mornés d'un rite opaque que j'apprenais de ce garçon.
Puis Tirésias interprète cette folie des oiseaux. Ils ont mangé les chairs du cadavre de Polynice. Ils ont été souillés et sont devenus fous. Les dieux, furieux, n'acceptent plus les sacrifices. Les rites sont pourris. Créon, selon Tirésias, est responsable, doublement. Il laisse un mort sans tombeau sur la terre et il envoie une vivante mourir sous terre dans une tombe. Créon résiste, s'entête. Il ne veut rien entendre. Il soupçonne le devin de s'être laissé acheter, de comploter contre lui. Encore un complotiste qui déraille et s'entête. En colère, Tirésias lui annonce que pour payer ses humiliations faites aux morts, il paiera avec la vie d'un enfant de lui. Les Erinies, nocturnes, vengeresses, qui s'occupent de venger les morts, vont s'emparer de lui, de sa famille. Créon, pour la première fois, est ébranlé. Il a peur, il cède. Mais le temps, qu'il a tellement retardé par son obstination, joue contre lui. Créon organise un cortège pour aller enfin donner une sépulture à Polynice. Un tombeau est dressé. Puis il se rend vers la caverne où a été emmuré Antigone. Il entend une voix désespérée, c'est celle de son fils Aemon. Vite, il fait dégager l'entrée de cette caverne et ce qu'il voit est terrible. Il voit le cadavre d'Antigone qui s'est pendu. Et il voit son fils couché sur elle. Quand il aperçoit son père, Aemon devient furieux.
Le garçon, le regardant fixement de ses yeux fous, lui crache au visage et ne lui répond rien. Il tire son épée à deux tranchants. Il manque son père qui s'est écarté d'un bond et a pris la fuite. Ensuite, le pauvre garçon tourne sa fureur contre lui-même. Il tend les bras et enfonce l'épée dans ses côtes, jusqu'en son milieu. Encore conscient, il se pelotonne contre la Vierge, cherchant une étreinte sans force. Haletant, il crache une pluie acérée, des gouttes de sang sur une joue blanche. Un cadavre à terre enveloppe un cadavre. Le pauvre a connu l'initiation nuptiale dans la maison d'Hadès.
Antigone ne s'est donc pas laissée tuer. Elle s'est tuée elle-même, dans un geste volontaire assumé. Aemon l'a suivie. La suite n'est pas plus gaie. La femme de Créon, Eurydice, pas la femme d'Orphée, une autre Eurydice, entend ce récit de la mort de son fils Aemon et se tue. À la fin, Créon paraît. Il tient dans ses mains le cadavre de son fils Aemon. Il est fou de douleur et ne peut s'en prendre qu'à lui-même.
Ah, oui, erreur de ma raison des raisons, entêtement qui tue. Hélas, désastre venu de mes propres décisions. Ah, mon fils, avec ta jeunesse subir une jeune mort. Oh, tu es mort, tu as disparu par ma bêtise, non par la tienne.
Puis on lui montre un second cadavre, celui de sa femme Eurydice. L'effondrement est total, il n'y a plus rien, rien n'a de sens. Il s'agit seulement de débarrasser le plancher, de dégager, faire place nette. Créon demande à ses serviteurs qu'on l'évacue. Ce sont ses derniers mots.
Débarrasser cet endroit d'un propre à rien qui t'a tué, mon enfant, sans le vouloir, et toi-même, ma femme, pauvre. Je ne sais pas où regarder, où me tourner. Tout vacille dans mes mains et sur ma tête. Un destin insupportable a fondu.
Créon a fabriqué tout seul sa propre tragédie et il pleure. Il est devenu un zéro, un pas plus que rien. Il n'a pas un mot pour Antigone. Créon est toujours enfermé dans son existence à lui, étroite, aveugle. Alors qu'il pensait parler, agir au nom du bien commun, au nom du bien de toute la ville. Il n'a pas vu qu'en voulant tout dominer, tout gérer, il s'isolait radicalement. Les dieux ont fini par intervenir, à la fin, par la voix du devin Tirésias, mais trop tard. Ils n'ont pas voulu sauver Antigone, ils l'ont laissé faire, ils ont respecté sa volonté. Leur rôle, pendant toute la pièce, a été de laisser ces deux destins se développer par eux-mêmes, l'un contre l'autre. Celui d'Antigone, qui se sait maudite depuis toujours avec ses frères, ses parents, et qui va jusqu'au bout, sans jamais dévier, avec résolution, fierté, en affirmant ainsi la force de son existence. Existence perdue mais unique, non négociable, non récupérable, par personne, même pas par les dieux. Et le destin humiliant, triste du pauvre Créon, qui croit agir au nom de la raison, de l'ordre, et qui s'anéantit lui-même, qui condamne non pas tant Antigone en fait, que sa propre famille. Les dieux ont dirigé le théâtre, de manière qu'on assiste à ces deux destins, indissociables et contraires, la dégénérescence d'un roi autoritaire, victime de lui-même, et l'affirmation progressive d'une existence, malgré la condamnation qui pèse sur elle depuis l'origine. Antigone n'est pas un modèle. Il n'y a pas d'éloge de la mort volontaire dans cette pièce, pas d'éloge du néant. Antigone, dès le début, se sait impuissante face aux dieux qui ont martyrisé sa famille depuis toujours, puis face à la violence de Créon. Antigone proteste seulement. Elle ne se résigne pas jusqu'à se détruire elle-même. Ce n'est pas une kamikaze, une fanatique entêtée, une dogmatique, comme il n'y en a tant à notre époque. Elle ne veut tuer, elle ne veut juger personne. Si elle est aussi radicale, intraitable, c'est simplement parce qu'elle n'a pas le choix et qu'elle transforme cette impuissance en énergie stupéfiante. Pour accompagner, pour faire voir et entendre cette force singulière, cette énergie indomptable, irrécupérable, et pour faire vivre le désastre de l'autre, son adversaire, il fallait la grande machine spectaculaire, brillante et délirante, qu'est la tragédie.
Jean-Pierre Vincent, metteur en scène.
La tragédie, c'est la faille de la responsabilité. C'est le fait qu'un individu, depuis que l'homme est conscient, un individu est responsable de ses actes et ne l'est pas. Que nous faisons ce que nous voulons, mais nous faisons ce que le monde nous force à faire, ce que des causes, proches ou lointaines, conscientes ou inconscientes, présentes ou passées, nous font faire. Nous sommes conditionnés, nos actes de volonté sont conditionnés par, on peut lui donner à ça des tas de noms, le refoulement, le destin, etc. Et je pense que toutes les tragédies sont des histoires où l'homme essaye de faire le point sur ce qu'il est en train de découvrir au 5e siècle, c'est-à-dire sa responsabilité et sa totale irresponsabilité, sa prédestination et son immanence. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose dans le tragique que cela. Le reste, c'est du mélodrame.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Le Chêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Pierrick Charles et le mixage par Éric Boisset. La semaine prochaine, nous parlerons d'Ariane et du Minotaure, le piège. Bonne journée sur France Inter.